Europe 1, 14h-15h, clap. Mathieu Charrier.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Aujourd'hui, on a décidé de s'intéresser à la figure du marginal sur grand écran. Ces marginaux qui intéressent depuis toujours les cinéastes, car en creux, ils racontent une partie de notre société. Je vous raconte ça dans un instant à l'occasion de la sortie de l'oscarisé Nomadland et du troublant Vaurien, ces deux films arrivant sur nos écrans mercredi prochain. 14h30, les films de ma vie. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec Patrick Bruel qui nous dévoilera ses plus grands souvenirs de cinéma. Alors par exemple, quel est son premier souvenir dans une salle obscure?
Je pense que c'est Z, Costa Gavras. Très jeune, j'ai eu la chance que ma mère m'emmène voir des films qui n'étaient pas forcément des films pour enfants et d'y trouver une résonance. Alors ça m'avait marqué et ça m'avait ouvert à une catégorie de films que je devenais demandeur.
Et pour découvrir la suite du questionnaire de Proust version cinéma de Patrick Bruel, c'est dans une petite demi-heure. Et puis, juste après, j'accueillerai mes collègues critiques pour débattre, vous le savez, des films sortis en salle mercredi dernier. Au programme aujourd'hui, Petite Maman, la nouvelle réalisation de Céline Sciamma, Chacun chez soi, la nouvelle réalisation de Michel Larocque, Playlist, belle surprise, signée de l'autrice de BD Nine Antico, et puis Billie Holiday, une affaire d'État, biopic polar ou polar sur fond de biopic, on verra ça. Et puis on ira bien évidemment entendre vos impressions sur ces films à la sortie des toutes premières séances. Voilà pour le programme de votre clap, qui démarre maintenant avec notre récit consacré aux marginaux sur grand écran.
Europe 1. Le récit.
Les réalisateurs aiment les marginaux, souvent parce qu'ils se considèrent eux-mêmes, en tant qu'artistes, comme des marginaux. C'est par exemple ce qu'a poussé David Lynch à réaliser un film sur peut-être le marginal le plus célèbre de l'histoire, Joseph Carey Merrick, dit « Elephant Man », cet homme rejeté par la société en raison de sa difformité, qui sera même étudié par la médecine britannique.
Ainsi, chers confrères, et en regard des faits observés, exostos congénital de la boîte crânienne, papillome géant, nombreuses masses de chair pendante, hypertrophie marquée du membre supérieur droit et de son ossature, importante distorsion de la tête, disproportion du corps, recouvert de papillomes géants, on a surnommé le sujet l'homme-éléphant.
La petite subtilité, c'est qu'Elephant Man est né avec cette difformité. Le pauvre a donc été tout de suite marginalisé par la société. Alors que pour d'autres, ça a pris de longues années. Un homme se trouve dépassé par la société et creuse son écart, cultive la différence avec ce qu'il considère alors comme la norme. Dans Boudu sauvé des eaux, par exemple, Michel Simon incarne la figure du marginal par excellence. Boudu, un clochard sauvé du suicide par Monsieur Lestingois, un bourgeois qui va se mettre en tête de le re-civiliser.
Vous mangez bien ici?
Oui, je mange bien.
Vous y dormez aussi?
Oui, je dors aussi.
Et votre joli costume à carreaux vous va bien?
Oui, il va bien.
Eh bien, si vous êtes habillé proprement, si vous mangez à votre faim, si vous dormez à l'abri, à qui le devez-vous?
Au bon Dieu.
Si M. Lestingois n'avait pas risqué sa vie pour vous, où seriez-vous?
Ben, je serais au ciel.
Ce film de Renoir aura droit à son remake en 2005, réalisé cette fois par Gérard Jugnot avec Catherine Fraud et Gérard Depardieu dans le rôle de Boudu.
Je te demande si tu pises droit.
Je ne fais que m'intéresser à ton cas, vieux.
M'appelle pas vieux. Il y a des limites. On n'a pas fait les poubelles ensemble. J'aime pas le rôti.
Oui, on a compris, Boudu.
Il faut que je mette la sourdine.
Mais qu'est-ce qu'ils a pris dire à ma femme qu'Hubert ne peignait plus?
Toi, ta femme, tu ferais pas mal de t'en occuper.
Je sais ce que j'ai à faire.
Oui, mais tu le fais pas. Et elle, ça commence à lui chatouiller sérieusement sous la culotte.
C'est un raffinement.
Ce remake attire plus d'un million de personnes dans les salles. Alors ce qui nous intéresse dans ce cas précis, c'est qu'il met en scène le marginal dans l'image que la société s'en fait. Quelqu'un d'un peu rustre, qui n'a pas les codes et que l'on peut moquer. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces dernières années, le cinéma a en fait cherché à humaniser les marginaux plutôt qu'à les moquer. Prenons l'un des chefs-d'œuvre plutôt récents, Les Amants du Pont-Neuf de Léos Carax avec Juliette Binoche. Il s'intéresse à un sujet que l'on retrouve beaucoup sur grand écran, celui des SDF, des sans-abri.
Je suis allée au musée là-bas pour voir un tableau au deuxième étage. Je voulais le revoir une dernière fois avant de plus rien voir.
Écoute-moi, la femme qui vit dehors, elle est battue, elle est violée, elle boit, elle n'a plus de règles, elle devient débile, tourte.
de parler des clochards, c'est bien joli, ou des gens qui vivent dehors, qui sont en difficulté, c'est bien joli. On peut l'imaginer, c'est vrai, mais de passer à travers une certaine expérience physique et d'observation, ça permet quand même d'approcher une certaine vérité. Au nom de quoi est-ce qu'on parlerait de ces gens-là? Et je trouve qu'en tant qu'acteur, on a la responsabilité de faire un passage, de faire un pont entre le spectateur et un sujet.
Dès 1985 d'ailleurs, Agnès Varda réalise « Sans toi ni loi », l'histoire d'une jeune fille errante, jouée par Sandrine Bonnaire, et retrouvée morte. Le film retrace son parcours. Il vaudra à Sandrine Bonnaire le César de la meilleure actrice à seulement 18 ans.
Tu dors tout le temps? Nous, on bosse tout le temps? Ça va pas, c'est pas juste.
Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux?
C'est toi qui veux rien. On t'a donné un bout de terre, t'en as rien fait. T'as rien à la tête.
Pourquoi? Faut absolument avoir quelque chose? Faut être absolument berger comme toi? Y'a pas que ta façon d'être marginale.
Pas marginale, t'es out, t'existes pas.
J'en ai rien à foutre de ta philo. Tu vis dans la même crasse que moi. Sauf que tu te fatigues beaucoup plus. Moi, si j'avais fait des études, je ferais pas comme toi. Parce que moi, ça m'a fait chier d'être secrétaire. J'ai quitté tous les petits chefs de bureau. Alors c'est pas pour en retrouver un à la campagne.
Dans les gares qui restent ouvertes la nuit, je restais tranquille sur un banc, j'étais sûre que... À 1h du matin, à 1h30, il y en a un qui viendrait me dire « t'as pas une clope ?» Et à partir de là, parler. J'essayais toujours de savoir d'où ils venaient, pourquoi ils étaient sur la route, où est-ce qu'ils allaient. J'ai pris ma petite voiture et je prenais en stop les filles sur la route. Et là, j'ai été découverte en découverte quand même. Sandrine avait 17 ans et demi, donc on avait de très bons rapports cordiaux, mais pas du tout « ma chérie, comme c'est bien ». Moi, j'aime pas ces metteurs en scène, vous savez, qui font des compliments. « Ma chérie, tu es géniale », c'est pas comme ça. Or, elle est géniale.
Elle est géniale.
Elle est géniale, mais... On avait un rapport de travail assez dur parce que les scènes étaient dures.
Il faut se souvenir qu'à cette époque, les SDF ne font pas la une des journaux. Et pour cause, ils sont relativement peu nombreux dans nos rues. C'est à la fin des années 80 qu'ils deviennent un phénomène avec ce film. Agnès Varda l'avait prédit. Depuis 2012, le nombre de sans-abri a même doublé. Et justement, pour la préparation de son film « Les Invisibles » sur le quotidien de femmes SDF, Louis-Julien Petit a passé un an avec des femmes dans cette situation. Il en livre une comédie sociale, intelligente, où de vrais sans-abri ont accepté de jouer aux côtés d'actrices connues comme Corinne Maziero. Écoutez-la au micro d'Europe 1.
Tout le monde peut se retrouver.
Est-ce que c'est vrai ça?
Bien
qu'on
sûr.
Peut tous se retrouver à la rue encore aujourd'hui?
Bien sûr. T'as des commerçants, t'as des proles, t'as des bourges, n'importe qui peut se retrouver dehors, mais très très vite en plus. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et qu'on peut tous réussir à aider une personne, ne serait-ce qu'une personne déjà, c'est énorme. Ça date pas d'aujourd'hui. Ça pète aujourd'hui et tant mieux. Et quoi faire par rapport à ça? Déjà écouter un peu ce que dit le film aussi. Écouter, regarder et trouver des solutions ensemble.
Bon alors je raconte. Hein. J'étais à la Sécurité sociale. Et je lui ai demandé au bonhomme, il m'a dit, voilà, je voudrais savoir combien de temps qu'il faut pour avoir une carte. Et le bonhomme m'a dit, il faut compter 15 jours, madame. Ben, j'ai dit, ça fait déjà 3 mois, j'ai dit que j'ai donné mes papiers, j'ai tout dit, rien reçu. Il va dans un petit coin, et puis il dit, ah ben, c'est pas encore été fait. Qu'est-ce que vous faites dans la journée? Je dis, vous branlez ou quoi?
Oui, ben, t'as raison.
Ah, oh, ça t'est directo, hein. Il y en a marre de se laisser marcher sur les orteils.
Corinne Maziero, qui s'est érigée comme porte-parole de ces marginaux, elle-même a connu à la rue, on se souvient de sa sortie récente sur la scène des Césars. Alors certains cinéastes ont fait un choix identique et mis le marginal au cœur de leur filmographie. Un exemple, Tim Burton, qui filme cette marginalité mais sous l'angle du fantastique. Avec Edouard Romain d'Argent, ce jeune homme rejeté de la société car il a des ciseaux à la place des mains, Tim Burton raconte sa propre difficulté à communiquer avec les ados de son âge lorsqu'il était jeune. Tim Burton, qui revenait sur la genèse de ce film, invité d'Europe 1, la voix de femme que vous allez entendre est celle de la traductrice.
I think there's a lot of people that are that way that
il pense qu'il y en a énormément des gens qui sont comme ça.
Often still to this day, you know, want to communicate in a certain way and
lui, souvent, lui-même, ça arrive souvent à lui qu'il a il aimerait bien communiquer avec quelqu'un et ça se passe pas de la façon
bien.
Édouard Romain d'Argent, qui sera un succès au box-office et qui reste à ce jour l'œuvre la plus personnelle de Tim Burton. Son dernier film en date, Dumbo, l'histoire cette fois d'un éléphant marginalisé à cause de ses grandes oreilles. Nouvelle évolution récente, le marginal se pose comme un opposant au conformisme ambiant, comme un rebelle, un homme libre. C'est ce qu'incarne parfaitement Vernon Subutex, le personnage de la saga écrite par Virginie Despentes, puis adaptée en série. On y retrouve Romain Duris dans le rôle titre. Vernon est d'abord une victime du système. Après avoir perdu son boulot et son appart, il se retrouve à la rue, mais il décide d'y rester. Moyen aussi de faire un pied de nez à la société capitaliste qui le rejette.
Ok, le monde va bien. J'ai vendu Karl Marx pour un paquet de chips et on est là comme deux pauvres pauvres à se battre pour une caméra pourrie. Ok, c'est génial. Putain les gars, wake up! Merde!
Autre exemple avec Nomadland, ce film de Chloé Zhao multi-oscarisé et qui sort mercredi prochain. Il met en scène Frances McDormand dans le rôle de Fern. La crise économique l'a poussée sur la route à bord de son van avec lequel elle décide finalement de parcourir une partie de l'Ouest américain pour aller à la rencontre des autres et s'en inspirer. Elle va notamment s'établir dans des tribus de marginaux qui vivent de troc, d'amour et d'eau fraîche.
Les temps sont durs actuellement. Je vous invite à envisager une retraite anticipée. Je dois travailler. J'aime travailler.
Tu es ma sœur. Au fur et à mesure que tu grandissais, tu passais pour une excentrique aux yeux de la plupart. C'était parce que tu étais plus courageuse.
J'ai rencontré des centaines de gens dans ce mode de vie. Je dis pas adieu quand ils repartent. Je leur dis toujours, on se recroisera sur la route. Et on se retrouve. Les au revoir ne sont pas des adieux.
Oscar de la meilleure actrice pour Frances McDormand, celui de meilleur film et meilleure réalisatrice pour Chloé Zhao. C'est la deuxième réalisatrice seulement à être sacrée dans l'histoire des Oscars après Catherine Bigelow. Et pour continuer à parler des marginaux au cinéma, justement, dans un tout petit instant, j'accueille Peter Dourounsis, réalisateur du film Vaurien, qui sera en salle mercredi prochain, et qui suit un marginal campé par Pierre Deladonchamp. Ce qui nous a intéressé, c'est que ce réalisateur s'est servi de sa propre expérience de 15 ans auprès du SAMU social pour dresser le portrait de Jay, le personnage principal. Vous allez voir, restez à l'écoute de Clap. On se retrouve dans un instant, mais je voulais qu'on écoute justement un extrait de la bande originale d'Edouard aux mains d'argent. Vous êtes sur Europe 1 et vous y êtes bien. Vous êtes toujours à l'écoute de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Et pour continuer à parler des marginaux sur grand écran, j'accueille maintenant le réalisateur Peter Dourounsis. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être là avec nous, réalisateur du film Vaurien, qui sort mercredi prochain. Film dans lequel on suit Jay. Alors, un marginal au sens très large du thème, qui est campé par Pierre Deladonchamp. Un marginal dans le sens où il vit en marge de la société, il squatte chez des potes. Alors, quand j'écrivais l'émission, je me disais, est-ce qu'on doit révéler qu'il tue aussi? Et je me suis dit que oui, parce que dans le résumé qui est sur Allociné, c'est dit. Donc voilà, c'est un marginal dans tout ce sens-là du terme.
Oui, c'est ça. Non, mais je voulais absolument que les gens soient au courant avant d'aller voir le film. Comme ça, ils ont un coup d'avance sur le personnage. Et tout l'intérêt, c'est de voir comment il se dissimule, comment il se cache et comment il passe crème auprès de ses nouveaux compagnons de fortune. Moi, c'est un personnage qui m'a été inspiré par Guy Georges, notamment, à une époque où il fréquentait lui-même les squats. Mmh. Et j'avais appris, en entrant au SAMU social pour garder son dossier, qu'il se faisait passer pour un autre. Hein. Il avait un surnom, je crois qu'il se faisait appeler Joe, de Joe l'Indien.
Pour ça, Jay, ça vient de là ?
Exactement. Et en fait, je me suis dit, bon, des films sur Guy Georges l'assassin, il y en a plein, il y en a des tonnes. Alors que sur ce Joe, le squatter, très sympathique, que tout le monde apprécie, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas même du tout. C'était du coup l'occasion d'essayer de renouveler un petit peu le genre.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce Joe ou ce Jay dans le film, j'allais dire, c'est un jeune homme bien sur tout rapport. C'est-à-dire que c'est un blanc, beau gosse, plutôt poli, même si des fois avec les femmes il peut se montrer violent, mais même dans ses mots. Mais sinon, on le croise dans la rue, bon, bah, on le ferait plutôt confiance. Donc c'était aussi cette volonté-là de montrer que voilà, la figure du marginal parfois dangereux que l'on peut avoir, elle n'est pas toujours la bonne.
Oui, c'est sûr qu'Émile Louis, on ne monte pas dans son bus.
Oui, c'est ça.
Et puis Francis Holm, on change de trottoir. Tandis que bon, bah, Jay, Pierre Deladonchamp, honnêtement, s'il veut boire un verre, on dit oui. bien volontiers. Et c'est tout le piège en fait de ce personnage qui effectivement a les attraits du mâle dominant. Il est blanc, il a 40 ans, il a les dents blanches, il est beau garçon, donc on lui passe tout. Et d'ailleurs, dès lors que ça se resserre un petit peu sur lui, il n'est jamais soupçonné de rien. Mmh. Que la police intervienne ou qu'il y ait une rixe dans un bar.
Oui,
voilà, le racisme flotte autour de lui, les violences policières, voilà, il est toujours épargné et il passe volontiers à l'étape suivante. Quoi.
Vous l'effleuriez lors de votre précédente réponse, mais vous avez passé 15 ans au SAMU social de Paris. C'est aussi pour ça qu'on trouve intéressant de vous inviter aujourd'hui. Ce SAMU social, quand vous y étiez, j'imagine que ce qu'on définit comme marginal, bien que la définition soit compliquée, mais vous en avez vu et revu. Aujourd'hui, vous diriez que c'est quoi un marginal finalement dans la société d'aujourd'hui ?
Il y a une idée reçue très répandue qui est qu'il y en a certains marginaux qui l'ont choisi. Honnêtement, j'en ai rencontré très peu. La plupart du temps, ils l'ont subi. Et,
ah oui, l'idée de celui qui se met en marge, un peu rebelle ou quoi, elle est relativement fausse.
Bah, une fois qu'on est à la rue, on peut devenir rebelle. C'est-à-dire que dès lors que vous mottez, je sais pas, le fait d'avoir un patron, des horaires, etc., je peux très bien, par orgueil, dire « ouais, je l'ai choisi ». Mais en réalité, non, ce sont des gens qui le subissent. Et ce qui est assez terrifiant, c'est qu'on est tous susceptibles d'être très vite en galère si on n'a pas de famille, pas d'amis. Dès lors qu'il y a un pépin conjugal, familial, financier, ça peut vite être compliqué. Ouais.
Vous trouvez que le cinéma aujourd'hui raconte bien ça, cette marginalité-là ?
Non, je pense que le cinéma est complètement aux fraises concernant les précaires. Après, il y a des tentatives, comme il y avait les Invisibles.
C'est ce que j'allais dire, voilà. Je pense. De
et c'est chouette, petit. Mais bon, ça reste bon cœur, ça reste vraiment feel good. Bon, si on voulait regarder la réalité en face, ce serait pas feel good du tout, voilà. Bon, il y a peut-être un film qui reste à faire sur ce sujet-là.
Vous avez envie, vous ?
Ouais, je m'en occuperai. Je m'en occuperai un de ces quatre dès que j'aurai l'occasion de m'y pencher. Avec grand plaisir. Je ramènerai de la comédie, c'est sûr, parce que j'aime bien mélanger les genres.
Mais c'est ça, c'est pas feel good, mais finalement c'est aussi dans la manière dont on peut le tourner, dans la manière dont on peut le montrer.
Oui, parce qu'on peut être dans une situation très embarrassante, très difficile, et comme, je sais pas, dans n'importe quelle situation, trouver l'humour noir pour survivre, quoi.
Parce qu'on a l'impression, c'est vrai que ces dernières années au cinéma, le marginal, c'est ce que vous disiez avant, quelqu'un qui se met lui-même en marge de la société, souvent dans les figures telles qu'elles sont représentées au cinéma. Et c'est vrai que c'est rarement le migrant qui subit sa situation ou ce type de personnage-là.
Oui, on a l'idée... moi, je me souviens du Clochard de Beverly Hills avec Nick Nolte, les épopées avec Une époque formidable, notamment... qui sont des films très chouettes. Hein. Marche à l'ombre aussi est touché du doigt. D'ailleurs, Marche à l'ombre que j'ai revu, qui a pas mal de points communs avec Vaurien, ça m'a perturbé. Non, c'est vrai que généralement, c'est ce qui fait partie de la comédie. C'est quelqu'un qui a choisi une vie un peu de traverse. Mais bon, je pense pas que ce soit vraiment une réalité.
Et justement, ce qui est aussi fort dans le film, c'est que les scènes de meurtre en tant que telles, vous les montrez pas ou peu. Ça, c'était un choix aussi de ne pas faire un film gore et de se dire, en fait, je vais plus laisser penser que, laisser comprendre que.
Oui, ben, je suis pas Lars von Trier, je ne suis pas Gaspard Noé. En toute humilité, je n'ai pas ce talent de provocateur et en même temps ce génie de mise en scène. J'essaye de faire un bon petit film, un bon petit thriller sincère. Et la première chose que je devais définir, c'était la mise en scène, lui donner une rigueur. Et mon idée, c'était que la caméra protège. Et tant que je tourne, il ne se passera rien dans le champ. Et effectivement, hors champ, je ne contrôle pas les choses, je ne peux pas protéger tout le monde et à tout instant. Et dès lors que je coupe la caméra, il peut se passer quelque chose. D'ailleurs, il se passe quelque chose et qu'on n'ignore pas du tout, hein, le spectateur sait parfaitement. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que ça met le faisceau sur des moments assez ordinaires de la vie, c'est-à-dire du harcèlement de rue, c'est des choses qu'on connaît. Ce qui était intéressant, c'était ça justement, ce tronc commun de situations qu'on connaît tous. Et après, l'exceptionnel est un petit peu hors champ. Voilà.
Et ce film, c'est donc Vaurien en salle mercredi prochain avec Pierre Deladonchamp. Assez exceptionnel, faut bien le dire. Je disais, je sais plus où, mais quelqu'un qui le comparait à Tahar Rahim dans Le Serpent, la série de Netflix en ce moment, dans ce côté comment on peut finalement transmettre la peur juste par un regard, par une situation, par un faciès, et c'est vrai que c'est exactement ça. Merci beaucoup, Peter Dorotzis, d'être venu dans le studio de Clap pour parler donc avec nous des Marginaux, et donc ce film qui sort mercredi prochain, Vaut rien. Nous, on reste ensemble, les amis, on se retrouve dans un tout petit instant pour ouvrir notre questionnaire Les films de ma vie. Aujourd'hui, c'est Patrick Bruel qui nous a confié ses plus grands souvenirs de cinéma. Restez à l'écoute.
Europe 1.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. On est maintenant en compagnie de Patrick Bruel. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être là.
Merci à vous.
Alors que le film Villa Capri s'est sorti il y a quelques jours, vous y jouez un grand chef d'entreprise accusé d'avoir acquis dans des circonstances pour le moins troubles une villa sur la Côte d'Azur, la fameuse Villa Capri. Et pour votre défense, vous allez recruter un ténor du baroque incarné par Nils Arestrup. C'est vraiment ce film, la rencontre comme ça de deux fauves, quoi, qui vont se apprendre à s'apprivoiser.
Se jauger. Ils vont se jauger, ils vont se regarder, ils vont essayer de tirer avantage l'un de l'autre. Deux personnalités fortes, deux égos surdimensionnés, deux types qui ont réussi dans la vie et pas forcément leur vie, deux types qui sont extrêmement seuls et qui auraient toutes les raisons de se rapprocher. Et c'est ce que mon personnage comprend très vite, et la faille d'une demande d'amitié s'ouvre du côté du personnage de Nils. Je m'engouffre dans cette faille et la manipulation commence. Qui manipule qui à la fin, c'est un film très haletant, c'est un vrai film de cinéma avec un metteur en scène très exigeant et très bon, et un très grand acteur en face de moi. Donc ça, n'importe quel acteur rêverait d'avoir en face de lui un regard aussi puissant, aussi percutant, aussi aiguisé. Il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de regard, il y a beaucoup d'intensité. Et puis on est sur un suspense, et on est sur un vrai film de cinéma.
Voilà, maintenant s'il vous plaît, asseyez-vous. Monsieur Fontaine, connaissez-vous Michel Jacquin ?
Je ne l'ai jamais nié. De par mes activités professionnelles, je suis amené à rencontrer beaucoup d'hommes politiques.
Vous savez, hausser les épaules, lever les yeux au ciel, avoir l'air agacé, c'est très mauvais. Parce que ça va donner l'impression au juge que vous prenez pour un minable à 4 000 euros par mois.
Ce qu'il est.
Bon, est-ce que vous êtes prêt pour notre questionnaire ?
Certainement.
On y va. Votre premier souvenir de cinéma, Patrick Bruel ?
Je pense que c'est Z, Costa Gavras. Très jeune, j'ai eu la chance que ma mère m'emmène voir des films qui n'étaient pas forcément des films pour enfants et d'y trouver une résonance. Alors, pourquoi est-ce qu'à 9 ans, on aime la musique de Mikis Theodorakis ? Pourquoi est-ce qu'à 9 ans, on aime le sujet, qu'on ne comprend pas tout forcément, mais l'influence des colonels et puis la liberté d'expression bafouée, mon temps qui se fait frapper au début comme ça, ça m'avait marqué. Et ça m'avait ouvert à une catégorie de films que je devenais demandeur.
On m'a frappé. Pourquoi les idées que nous défendons provoquent-elles une telle violence ? Pourquoi ne s'en prennent-ils pas à d'autres organisations et mouvements ? La réponse est simple. Les autres mouvements sont purement nationaux et laisse indifférents nos alliés.
Général, nous sommes débordés. Il faut arrêter ça, ça les excite. Je vais envoyer quelqu'un pour aller débrancher les haut-parleurs.
À travers le monde, on parle de paix.
Ça excitera les autres.
Mais la paix sonnerait le glas.
Surtout pas.
Vous avez toujours suivi Costa Gavras depuis...
Oui, il n'y a pas un film que j'ai pas vu de Costa Gavras, comme il n'y a pas un film de Sauté que j'ai pas vu, évidemment, puisqu'ils sont, ils sont très fondateurs.
Votre meilleur souvenir en salle ?
C'est Le Parrain, qui est un choc absolu. Mais je ne sais pas si c'est le meilleur souvenir. C'est bizarre, le meilleur souvenir.
C'est le plus fort, en tout cas, celui qui...
Il y a le Roméo et Juliette de Zeffirelli qui avait été très, très puissant à l'époque. J'avais une dizaine d'années quand il est sorti. Mais voilà. Puis en vous répondant, il y a 10 films qui m'arrivent, puisqu'il y a Serpico, évidemment. Il y a Panic à Needle Park, il y a Marathon Man, il y a Taxi Driver. Il y a tous ces films-là qui m'ont tellement marqué. Mais Le Parrain était tellement fondateur pour moi.
Tu passes du temps avec ta famille ?
Bien sûr, parrain.
C'est bien. Parce qu'un homme qui ne se consacre pas à sa famille ne sera jamais un homme. Viens ici. Tu as mauvaise mine. Je veux que tu manges. Et je veux que tu te reposes. Et dans moins d'un mois, ce producteur d'Hollywood te prendra pour le rôle.
Non, c'est trop tard. Ils vont tourner dans une semaine.
Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser.
Votre séance de cinéma la plus dingue ?
Vraiment au sens propre du terme, dingue, alors je dirais de Rocky Horror Picture Show. Parce que ça, c'était dingue à l'époque. Je ne sais pas si ça se fait encore, mais aller voir un film où on est en temps réel, avec l'écran Et tout ce qui se passe sur l'écran se passe aussi dans la salle. Donc quand vous avez une odeur, bah, vous la prenez dans la salle. Quand vous avez de l'eau qui asperge les acteurs, bah, ça asperge le spectateur aussi. Et puis vous vous retrouvez avec un show à l'intérieur de la salle. Je l'ai vu à Paris, mais je l'ai vu aussi à New York. Et c'était totalement fou.
Un film que vous auriez aimé voir au cinéma, vous avez découvert sur une télé, sur un écran d'ordinateur?
Gladiator.
Oui.
Que j'ai vu dans l'avion en allant à Los Angeles, et je l'ai vu sur un petit écran et je n'ai pas eu l'occasion de le revoir sur grand écran. Je pense que c'est un film qui méritait vraiment le grand écran.
C'est sûr.
Tu vas retirer ton casque et me dire comment tu te nommes.
Mon nom est Maximus Decimus Meridius, commandant en chef des armées du Nord, général des Légions Félix. Fidèle serviteur du vrai empereur, Marc Aurel. Père d'un fils assassiné. Époux d'une femme assassinée. Et j'aurai ma vengeance. Dans cette vie ou dans l'autre.
Et alors, un film, celui qui vous a fait le plus rire?
Le prénom, bien sûr.
Ah.
Mais qui m'a fait le plus rire... Oh, le dîner de con. Je crois que c'est pas mal, ça.
Vous êtes un gros producteur belge. Vous avez lu Le Petit Cheval de Manège, c'est le titre du roman, et vous voulez lui acheter les droits pour le cinéma, ok?
C'est un bon livre.
Très mauvais, quelle importance?
Ça m'embête un peu, ça.
Pourquoi?
Si le bouquin est mauvais, pourquoi j'irai acheter les droits?
Monsieur Pignon.
Oui.
Vous n'êtes pas producteur.
Non.
Vous n'êtes pas belge non plus.
Non.
Ça n'est donc pas pour acheter les droits du livre que vous téléphonez, mais pour essayer de savoir où est ma femme.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Et le film qui vous a fait le plus pleurer, Patrick Bruel?
Peut-être L'Incompris de Comencini. Voilà, il y a Cinéma Paradiso aussi, mais L'Incompris, ouais. Je crois que celui-là, il m'avait bien chopé.
Pour terminer, quelle est la bande originale qui a le plus marqué votre vie?
Le Parrain ou Il était une fois en Amérique, qui sont les deux plus grands compositeurs de musique de film. Enfin non, parce qu'il y a John Williams aussi. Mais on pense à Ennio Morricone et on pense à Nino Rota. Et c'est extraordinaire parce que je travaille en ce moment sur une musique de film. C'est ma première musique de film. Et je regarde beaucoup les films qui m'ont marqué, des ambiances. Et je m'aperçois de l'audace extraordinaire d'Ennio Morricone. Extraordinaire. Il s'est permis des choses pour que sa musique soit un acteur. C'est un acteur principal du film.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bruel, d'être venu nous rendre visite dans Clap. Et donc, ce film à l'affiche depuis mercredi dernier qui s'appelle Villa Caprice. On se retrouve dans un instant pour la suite de Clap. Le temps d'accueillir mes collègues critiques. Et on va débattre aujourd'hui de Petite Maman, le nouveau film de Céline Sciamma, de Billie Holiday, de la très belle surprise playlist et puis de Chacun chez soi, nouvelle réalisation de Michel Larocque. A tout de suite.
Clap. Mathieu Charrier fait son cinéma sur Europe 1.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Clap. J'ai le plaisir d'accueillir maintenant dans ce studio pour débattre des films sortis en salle mercredi dernier Marilyn Letertre de Madame Figaro et Fabrice Leclerc de Paris Match. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
On était en train de se faire des petits signes, c'est pour ça on
vous
écoutait pas.
Alors, au lieu de vous faire des petits signes, on va débattre aujourd'hui de Billie Holiday, de Petite Maman, le nouveau Céline Sciamma, de Playlist de Nina Antico et de Chacun chez soi. Ça s'est signé Michel Larocque. Mais commençons donc par Billie Holiday, une affaire d'État de Lee Daniel.
Mesdames et messieurs, mademoiselle Billie Holiday.
Cette Holiday met de mauvaises idées dans le crâne des gens.
Elle encourage la colère et les revendications du peuple noir.
Sortez-la de la scène.
Il me laisse plus chanter nulle part. Plus de club, plus de pognon, plus rien.
Elle a réussi à devenir quelqu'un et vous ne le supportez pas parce qu'elle est forte, belle et noire.
Et vous aurez peut-être reconnu un extrait de Stranger Fruit, qui est donc l'un des tubes de Billie Holiday, et dont on découvre dans le film que l'État américain a tout fait pour interdire cette chanson, pour lui empêcher notamment de la chanter sur scène, puisque c'est une chanson, évidemment, c'est Stranger Fruit, c'est ces fruits étranges, ce sont les corps des Noirs américains qui étaient pendus dans les années 40 dans les arbres. C'est un film politique. Ils vont donc engager un infiltré auprès de Billie Holiday, de la brigade des narcotrafics, qui va tenter de la faire tomber, mais le pauvre, il va en tomber amoureux. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, dans les salles de ce Billie Holiday?
Fantastique, j'adore.
J'ai adoré.
Magnifiquement joué.
Très, très poignant comme histoire.
C'est agréable d'entendre les chansons de Billie Holiday qu'on connaît, donc c'est agréable de les revivre.
Mais c'est pas du tout ce parcours avec le FBI, la drogue, etc. C'est très prenant.
Ça restitue bien l'atmosphère aux États-Unis des années après-guerre, 1940, et le rôle ignoble du FBI après cette pauvre chanteuse.
Ça interpelle, et enfin, j'invite les gens à venir le voir, en fait. On s'interroge, on se dit, bah, il faut que ça se reproduise pas, en fait. Je suis contente d'être allé voir ce film et d'en savoir plus maintenant.
C'est le genre de film qu'il faut aller voir parce que le racisme est toujours à d'autant d'actualité. C'est un bon film contre le racisme.
Eh bien, vous êtes pour le moins très, très emballé. C'est bien sûr la chanson Strange Fruit. J'ai dit Stranger, mes camarades m'ont corrigé. Marilyn Leterre, Billie Holiday.
Écoutez, moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant parce que j'avoue que je ne connaissais pas grand-chose d'elle. Enfin, j'avais vu le documentaire qui était sorti l'année dernière, qui était très, très bien. Mais avant ça, je ne connaissais peu de choses. Et notamment, cette histoire avec le FBI qui s'est vraiment acharné contre elle m'était totalement étrangère. Et ça, je trouve que c'est un angle hyper intéressant. Ce qui vaut vraiment le coup dans le film, c'est la découverte d'une actrice qui est Andra Day, donc qui joue Billie Holiday et qui chante Billie Holiday et qui la chante merveilleusement bien. Elle a décroché le Golden Globe pour le rôle. En revanche, face à elle, je trouve les acteurs masculins tout petit peu fadas. Je trouve que ça manque un peu de charisme. Voilà. Après, la mise en scène, Lee Daniels, il est toujours un tout petit peu lourdeau, il ménage pas ses effets.
Classique mais efficace.
Voilà, il y va un petit peu lourdement par moment, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un beau portrait de femme, effectivement, parce que c'est une femme qui se bat pour sa liberté d'aimer qui elle veut, notamment, qui a été une militante pour le droit des femmes et des Afro-Américains, enfin, voilà, et puis, mais il faut quand même se dire que c'est davantage un portrait de cette femme, de ses combats et de ses failles, qu'un film sur sa musique. Voilà, pour les gens qui iraient voir le film pour ça.
Fabrice Leclerc.
Moi, c'est justement ce que j'aime beaucoup dans ce film, parce que pour moi, c'est l'anti-biopic américain, comme on les voit tous.
Ah, c'était pas une critique, hein, j'ai juste les gens.
Moi, je trouve le film vraiment très réussi pour ça, parce que ça montre Billie Holiday. Alors oui, cette histoire avec le FBI, que moi, je connaissais un peu, mais qui est racontée d'une manière absolument délirante et étonnante, mais c'est surtout le portrait de cette femme et pas de cette chanteuse, je suis d'accord. C'est le portrait d'une femme qui se noie elle-même dans ses démons. Et ça, on le voit pas souvent dans les biopics hollywoodiens. Tout est un peu policé. Là, c'est pas policé du tout. Elle aime la drogue, elle en consomme beaucoup. Elle aime les hommes, elle en consomme beaucoup. Elle aime les femmes et elle aimerait en consommer aussi beaucoup. C'est vraiment pas dans la norme. Et puis, oui, cette actrice, Andra Day, qui est une chanteuse à la base, qui est une jeune chanteuse découverte par Stevie Wonder ces quelques années, qui fait du R&B... Et d'ailleurs, son nom, Andra Day, vient du surnom de Billie Holiday, parce qu'elle était fan. C'était The Lady Day. Et elle est absolument effarante dans son... Elle vampirise le film. Et pour ça, je trouve que c'est un film très, très réussi. Et je trouve que Lee Daniels m'a fait un super boulot, parce que c'est du canevas. C'est vraiment de la haute couture dans le cinéma et dans le type du biopic.
Et ben voilà, Billie Holiday, voilà. Si on ne vous a pas convaincu, je ne vois pas ce que l'on peut faire de plus. Autre film qui était attendu, puisque c'est la nouvelle réalisation de Céline Sciamma, ça s'appelle Petite Maman.
C'est quoi ?
C'est mes trucs d'enfant.
Mais moi, tu la faisais où ta cabane ?
Dans les bois, juste derrière.
Elle a préféré partir ce matin. On a décidé que ce serait mieux comme ça.
Tu viens m'aider ?
J'ai un secret. Je suis ton enfant. Tu viens du futur.
Et voilà, je suis ton enfant, tu viens du futur. Le pitch tient en deux lignes. Une petite fille rencontre sa maman, mais quand elle était elle-même enfant, les deux ont le même âge, donc, et deviennent amies. Est-ce que ça vous a convaincu ?
Ah mais moi, j'ai pleuré, donc j'ai un peu de mal à en parler.
J'ai trouvé ça très délicat, très beau, très intime.
Et deux petites actrices qui sont vraiment incroyables.
Le début, je trouvais ça vraiment très long et ennuyant. Et en fait, j'étais beaucoup plus enchantée par la fin, et c'est un peu rattrapé le tout.
C'est atroce. Je pense qu'on se fout de nous, là. Mais il n'y a rien, quoi. C'est le vide ancestral, quoi. Tu es hyper énervée.
Extrêmement touchant, d'autant que c'est d'un point de vue des enfants. Donc il y a une part d'innocence également. Et ce qui rend le film merveilleux, finalement.
Je viens d'une famille de femmes. Il y avait grand-mère, voilà. Non, c'est se retrouver à un moment sans les barrières familiales et pouvoir dire au revoir à quelqu'un qu'on aime.
C'est bien un film fait par une femme et que ça fait du bien.
Bon, c'est mitigé. Il y a beaucoup de gens qui ont adoré, d'autres qui ont détesté. Je pense que le monsieur est complètement passé à côté. Fabrice Leclerc, Petite Maman.
Écoutez, moi, je ne suis pas grand fan du cinéma de Céline Sciamma. En tout cas, je suis un des grands pourfendeurs de ce fameux portrait d'une jeune fille en feu que je trouvais boursouflé de cinéma et de suffisance. Là, je retrouve la Cécile Sciamma du début, de Tomboy, et ce cinéma à la fois brut, tendre, avec l'enfance. Je trouve qu'elle a quitté tous ces oripeaux qu'elle avait pris dans ses derniers films, mais elle retrouve une certaine candeur et un certain naturel dans le film. Alors oui, je suis d'accord, c'est un peu long. Oui, je suis d'accord.
Ça dure une heure et quart, hein.
Ouais, mais il y a des longueurs, bah, vous savez, hein, il y a des films à 40 minutes, on se demande ce qu'on fait là. Là, pas du tout, il y a une candeur, il y a quelque chose qui se passe dans ce film, qui est un petit film tourné juste après le confinement. Voilà, j'ai été touché, j'ai pas été totalement subjugué, mais touché.
C'est Céline Sciamma, vous avez dit Cécile, mais c'est à votre langue.
Ça fait 15 ans que je
Que vous dites Cécile pour Céline.
Et donc je continuerai d'hésiter si ça vous dérange pas.
Marilyn, Petite Maman.
Ben moi, c'est un peu la même chose, je suis un peu mitigée en fait. J'y vois beaucoup d'intelligence, ça pose des questions qu'on pourrait tous se poser, c'est très universel sur « et si on rencontrait notre maman ?» Est-ce qu'on s'entendrait bien avec? Est-ce qu'elle nous ressemblerait? Est-ce que finalement, elle serait pas plus une sœur qu'une maman? Enfin, voilà, ça pose plein de questions qui m'intéressent. Je trouve qu'il y a beaucoup de délicatesse. Je crois que c'est un mot qu'a utilisé un des spectateurs et c'est totalement juste. Voilà, c'est un petit film, un conte à hauteur d'enfant. Ça parle de transmission, de deuil, de reconstruction. Mais une fois que j'ai dit ça, eh ben moi, ça me touche pas du tout. Je trouve ça intelligent, j'y vois, je regarde, mais alors je n'ai aucune émotion. Ça me laisse totalement à la porte. Donc là où, contrairement à Fabrice, les derniers films de Céline Sciamma, eux, moi, me bouleversaient. Bon. Mais voilà, et là j'avoue que je suis vraiment restée totalement de marbre devant cette histoire.
Il faut aller se faire son avis. Pour ma part, j'étais très mitigé en sortant de la salle et quand je vois aujourd'hui, plusieurs semaines après, ce qui me reste de ce film en termes d'image, en termes d'émotion, je pense que c'est un très bon film du coup.
Mais voilà. je crois que l'idée est vraiment entre nous trois. C'est un film touchant, plein d'intelligence et de candeur, mais qui bloque un peu sur l'émotion. Je suis assez d'accord.
Petite Maman. Clap. Et bien voilà, une autre belle surprise de la semaine qui s'appelle Playlist de l'autrice de bande dessinée Nine Antico, avec notamment Sarah Forestier et Laetitia Doche.
Ça se passe bien au restaurant?
On paye 40 euros et on est traité comme de la merde.
Moi, je vous traite comme de la merde?
Vous nous traitez comme de la
merde. C'est moi qui vous traite comme de la merde?
Non, enfin... Si au moins j'avais l'amour pour m'attacher à quelque chose.
Mais tu sais, Sophie, l'amour, c'est pas simplement se faire baiser dans les chiottes.
Tu m'as dit je t'aime!
Mais non, je t'ai pas dit je t'aime, j'ai dit j'éteins.
Voilà, je t'ai pas dit je t'aime, j'ai dit j'éteins la lumière. C'est le portrait d'une jeune femme paumée qui veut d'abord travailler dans l'édition, qui se fait recruter comme assistante dans une maison d'édition avec le boss insupportable qui s'appelle Patrick, mais qui va absolument se faire appeler Jean-Luc. Elle enchaîne les hommes, elle tombe enceinte sans le vouloir. Vous allez me dire, c'est un film de jeune fille paumée vu 10 000 fois. Oui, sauf que c'est libre, sauf que c'est frais, c'est tourné en noir et blanc et c'est beau, je trouve. Marilyn, dans un instant, votre avis. D'abord, vous, en salle, qu'en avez-vous pensé?
C'est très drôle. Je trouvais que c'était très bien, que c'était très féministe, c'est très jeune, c'est très urbain.
C'est assez frais. C'était sympa de voir un film déjà en noir et blanc, mais aussi drôle, assez décalé.
C'est un beau film en noir et blanc, ça fait du bien aussi de changer un peu de la couleur qu'on a classiquement devant nos écrans.
Je conseille aux gens d'aller le voir. Ça me le passe un bon moment, surtout pour les femmes, mais les mecs aussi, qui apprennent plein de choses sur le clitoris, la jouissance.
Il y a juste un tout petit problème de rythme. C'est un peu lent, c'est toujours un peu sur le même rythme.
Mais c'était un beau film, il y a une très belle playlist justement, très belle musique.
C'est vrai, très belle musique, petit problème de rythme. Bon, moi je n'ai pas trouvé, Marilyn.
Ah non, moi je trouve qu'il n'y a aucun problème de rythme dans ce film. Je crois que sur l'affiche, ils disent donc que c'est la comédie pour retourner au ciné, danser dans les bars, retomber amoureux et dîner entre amis. Et tout ça, c'est vrai.
Ça, ouais.
En fait, c'est exactement ça. C'est le film qui fait du bien, qu'on a envie de voir. Et pourtant, donc, c'est ce que vous disiez quand vous présentiez, c'est l'histoire quand même d'une héroïne de la loose, de la super loose quand même. Mais c'est jamais déprimant. C'est pas le truc qu'on a vu effectivement 100 fois parce que ça s'apitoie pas parce qu'elle vit sa loose avec panache, avec fierté. C'est hyper drôle. Donc, elle a une meilleure amie dans le film qui est jouée par Laetitia Doche. Laetitia Doche, elle est formidable. Elle pourrait lire le bottin qu'elle serait toujours aussi drôle, je pense. Et face à elle, donc, c'est Sarah Forestier qui fait l'héroïne de cette playlist. Et Sarah Forestier, elle est quand même très, très bonne dans la comédie. on se souvient d'elle dans Le Nom des gens, ouais. Évidemment. Je pense que là, elle n'avait pas été aussi drôle depuis. Moi, c'est vraiment un film qui m'a fait du bien. Je trouve qu'il y a un petit côté un peu punk, mais pas que, parce que c'est aussi un peu mélancolique. Ouais. Il y a une forme de tendresse, de regard qu'elle pose sur ses actrices et ses personnages qui est hyper bienveillant. Moi, j'ai adoré.
Fabrice, playlist ?
Moi, c'est sûrement la petite perle de cette réouverture des salles, parce que Nine Antico, on ne l'attendait pas là. Elle est auteure de BD. Elle passe à côté de tous les travers de ce genre de film, de ce portrait de la jeune fille, de la loose, comme vous disiez si bien. Elle passe à côté de tous ces travers-là. Sarah Forestier porte le film d'une manière ahurissante. Je pense qu'il n'y a pas de film sans elle. L'usage du noir et blanc qui est extrêmement bien pensé, parce que l'usage de la musique, de cette fameuse playlist, parce que c'est un peu la playlist de la loose et la playlist de sa vie. Non, vraiment, c'est frais, c'est plein d'inventions, c'est chapitré comme une BD. Il y a une petite surprise, une bonne idée toutes les 5 minutes. Mmh. C'est vraiment un très, très, très beau premier film. Et vraiment, je vous le conseille. Mmh. Et Sarah Forestier, je vous adore.
Avis unanime pour Playlist de Nine Antico. On va voir si c'est la même chose pour la deuxième comédie de la semaine, Chacun chez soi. C'est signé Michel Larocque avec notamment Stéphane de Groot.
Papa ?
J'ai failli oublier de vous annoncer la grande nouvelle. Anna et Thomas vont venir habiter à la maison.
Tu sais, les gosses, c'est comme des cafards. Il fait chaud, il y a à boire, il y a à bouffer, ils partent plus. Il faut que tu leur pourrisses la vie.
Oh, c'est dégueu, ça.
Mais non, ma chérie, ça, c'est ton café d'hier qui a séché, c'est rien.
Sinon, tu l'aurais mis dans le lave-vaisselle.
Et si tu draguais ton beau-fils ?
Oh là là, tu me fais du bien.
Ah, la pute. Ah, la pute, tu vas voir ce que je vais lui faire.
Famille de dingue.
Ben, je pense que je n'ai pas besoin de faire de résumé puisque vous avez tout compris. Michel Larocque et Stéphane de Groot vivent en couple lorsque leur fille revient au domicile avec son petit chéri et ils vont tout faire pour la faire repartir. Peut-être voyez-vous une filiation avec Tanguy. Quand j'avais dit ça à Michel Larocque, elle avait un petit peu mal pris. Bon, déjà, est-ce que vous, ça vous a fait rire ?
On a beaucoup aimé. C'est amusant.
C'est agréable, ça. C'est frais, c'est joyeux.
Une bonne comédie avec quelques rebondissements, donc c'est bien.
Gentil. Comédie française, disons.
Moi, j'avais besoin de me changer les idées, donc voilà, c'était marrant.
Ça manquait d'humour, de verve, mais sympa. Moi, j'adore Michel Larocque.
Moyen, moi, je sais pas trop rentrer dedans.
C'est un bon film, c'est pas le film de l'année, mais c'est un très bon film. Voilà.
Le concept, plus de retourner vivre chez ses parents, c'est plutôt sympa, on se reconnaît dedans.
Et c'est en ça que c'est intéressant que Marjorie Adelson aille vous voir à la sortie des salles, puisque je sais déjà que mes deux confrères... Ah non, quoique Fabrice, je crois qu'il a bien aimé. Mais Marilyn, allez-y sur Chacun chez soi, allez-y avec votre snobisme habituel.
ça c'est pas gentil.
Et vous croyez mal me concernant, vraiment Mathieu
plus. Et
vous
il me semble que Mathieu n'a lui-même pas beaucoup aimé, mais il n'assume pas totalement ses points de vue.
Alors,
c'est comme pour l'affiche de playlist. Il y a une quote sur l'affiche de Chacun chez soi qui est hyper juste. C'est « Au secours, ils sont de retour ». Mais je trouve ça vachement bien vu, finalement. C'est-à-dire qu'il y avait eu...
Michel Larocque, si tu nous écoutes.
Il y avait eu brillantissime avant.
C'est quand même mieux. Merci.
Mais bon, un peu mieux par rapport à ce que c'était, bon. Ça reste pas bien. Oui, Tanguy, hein. On pense à Tanguy tout le temps, il n'y a pas d'idée, c'est ultra balisé, les dialogues c'est faiblard, et puis elle se fait plaisir, faut qu'elle chante, faut qu'elle danse, faut qu'elle minaude. Oh, voilà, moi j'ai trouvé ça insupportable.
Bon, parce que oui, non, mais ce que vous dites est vrai, mais ce que disent les gens aussi qu'on a entendu tout à l'heure est vrai.
C'est-à-dire ils adorent Michel Larocque.
Vous vous rappelez que ce film, oui. Les amis, on l'a découvert au Festival de l'Alpe d'Huez il y a un petit moment maintenant, il y a plus d'un an, et que le public était conquis, que le public riait. Donc voilà, c'est aussi de la comédie populaire, Fabrice.
Alors, moi, j'aime beaucoup Michel Larocque. Je pense que Michel Larocque, comme Laetitia Doche, pourrait me lire Le Bottin, ça me ferait rire quand même. Je trouve qu'elle a une vraie personnalité. Je trouve que le film n'est pas si mal réalisé que ça. Et quand ces acteurs-là se mettent à la comédie et à réaliser, ça peut donner des choses pas mal. Après, oui, pourquoi cette idée de Tanguy du retour, de le retour, de Tanguy du retour ? Après, il y a quelques gars drôles, mais il n'y en a pas assez. Il y a plein d'idées, mais elles ne sont pas exploitées. Et moi, je pose une question. Le bonsaï, il y a quand même un moment... Parce que, alors, Stéphane de Groot, qui est le mari, qui est totalement dépassé par les événements...
Mais il s'est fait virer et il taille des bonsaïs.
D'ailleurs, je dirais qu'heureusement qu'il y a Stéphane de Groot. Hein.
Il ne fait plus l'amour à sa femme, mais il s'occupe de ses bonsaïs. Allez voir la symbolique là-dedans. Non, mais c'est trop, quoi. Non, il y a plein d'idées qui sont mal exploitées. Donc, c'est un film qui distrait. Mais c'est pas mal. C'est, voilà, si vous avez envie d'aller rigoler une heure et demie, pourquoi pas
Allez
si
voir Playlist.
Oui, mais si vous aimez Michel Larocque, l'humour de Michel Larocque, l'humour de Stéphane de Groot, bon, ben vous en en avez pour votre argent.
Voilà.
On peut dire ça ? Allez.
Sans aucun doute.
Chacun chez soi, on a aussi parlé de playlist de Nina Antico. Ça, c'est notre belle surprise de la semaine de Petite Maman de Céline Sciamma et de Billie Holiday. Là aussi, ce film, on vous le conseille, les amis. Merci beaucoup, Marilyn Letertre de Madame Figaro, Fabrice Leclerc de Paris Match. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Émission que vous retrouvez en podcast. N'hésitez pas à vous abonner. Et pour le direct, c'est samedi prochain, 14h, 15h sur Europe 1.
Europe 1.